Il y a un siècle, octobre 1911, janvier 1912, la fin de la Chine impériale. Le 10 octobre 1911, la mutinerie d'une garnison militaire à Wuhan, en Chine, allait conduire à la chute des Qing, la dynastie Mandchou qui dominait l'Empire chinois depuis 1644, amenant la proclamation de la République le 1er janvier 1912. Ce n'était en fait que la première vague de l'explosion politique et sociale qui allait embraser cet immense pays pendant un demi-siècle. Depuis 1800, le pouvoir des Qing était confronté à la stagnation économique, aux disettes et aux révoltes. À partir de 1839, les puissances occidentales, en tête la Grande-Bretagne et la France, imposèrent par la force une série de traités qui allaient leur permettre de dépecer le pays en plaçant les exportations entièrement sous leur contrôle. Une bourgeoisie chinoise commençait à se constituer, issue des rangs des entre guillemets compradors qui servaient d'intermédiaires aux capitalistes étrangers. En même temps, les contradictions sociales augmentaient dans ce pays comptant déjà plusieurs centaines de millions d'habitants, vivant souvent dans une extrême pauvreté. Le développement d'un courant nationaliste bourgeois. Depuis les années 1890, il existait des mouvements nationalistes opposés à la dynastie, comme le mouvement Renaissance de la Chine, fondé en 1894 par Sun Yat-sen. D'origine paysanne, celui-ci avait fait des études de médecine à Hawaï, où il avait découvert la puissance économique américaine et emprunté à Abraham Lincoln ses, entre guillemets, trois principes du peuple : nationalisme, démocratie, bien-être. Contrairement à ceux qui espéraient le changement en imposant une monarchie constitutionnelle, lui pensait qu'il fallait renverser la dynastie, ce qu'il tenta à deux reprises, mais sans succès. Il dut s'exiler et organisa l'opposition républicaine depuis le Japon. Sun Yat-sen reçut le soutien financier des marchands et des artisans chinois de la diaspora. En 1905, les mouvements nationalistes fusionnèrent en une ligue jurée dont ils résumaient ainsi le programme, ouvrez les guillemets, chasser les étrangers, restaurer la Chine, fonder une république et redistribuer équitablement les terres, fermez les guillemets. Sun Yat-sen rêvait d'une Chine indépendante, jouant sa partie dans le concert des nations. Mais comme la plupart des bourgeois chinois, dont certains étaient aussi les propriétaires des terres sur lesquelles la majorité des paysans n'arrivaient pas à survivre, ils ne voulaient pas d'une révolte de ceux-ci. La dynastie Mandchou à bout de souffle. À partir de 1900, la dynastie Mandchou était à l'agonie. La mort de l'impératrice en 1908 précipita les événements. Une assemblée de notables des régions, élus par les seuls lettrés et riches propriétaires, se transforma en un foyer d'opposition au régime impérial. Au cours de l'année 1911, les sentiments antidynastiques des notables locaux et d'une partie de l'armée se renforcèrent. Et le 9 octobre, dans le Hubei, l'exécution d'opposants qui préparaient un soulèvement armé déclencha une mutinerie parmi les troupes. Le 10 octobre, un gouvernement militaire de Hubei était proclamé et appelait à l'insurrection contre la dynastie. La révolution commençait. En réaction, la cour impériale envoya le général Sun Yuan Shikai et son armée affronter les insurgés, mais le 2 novembre, ce général entamait des négociations secrètes avec le camp républicain. Le 11 décembre 1911, les délégués de 17 provinces se mirent d'accord sur le principe de l'élection d'un président provisoire. Le 25 décembre, Sun Yat-sen revenait d'exil. Le 29 décembre, il était élu avec les suffrages de 16 provinces sur 17 et la République proclamée le 1er janvier 1912. Une bourgeoisie impuissante face au seigneur de guerre. Toutefois, la jeune République était dans une position précaire. Le nouveau gouvernement n'avait aucune influence sur les masses paysannes. Aussi chercha-t-il une alliance avec Yuan Shikai et son armée en lui offrant la présidence de la République que Sun Yat-sen lui céda le 10 mars. Le 25 mars 1912, les groupes nationalistes fondaient un parti nationaliste, le Kuomintang, qui remporta les premières élections législatives libres en février 1913. Mais le général Yuan Shikai, encore lui, imposa sa dictature, assassinant le premier ministre pressenti, abolissant les assemblées nationales et provinciales, et se lançant à la poursuite des nationalistes. L'aile républicaine se regroupa sur ses bases traditionnelles, Canton et Shanghai, et appela sans succès à une, entre guillemets, « seconde révolution ». Elle ne chercha pas à s'allier à une révolte paysanne qui éclatait au même moment au nord-ouest du pays. Sun Yat-sen n'eut plus qu'à retourner au Japon, tandis que Yuan Shikai tentait de se faire proclamer empereur. À la mort de ce dernier, en juin 1916, la Chine fut livrée aux ravages des chefs militaires provinciaux. Ces, entre guillemets, « seigneurs de guerre » de funeste réputation. L'écroulement de l'Empire déboucha sur le chaos. De 1916 à 1928, se succédèrent 25 équipes gouvernementales, 34 chefs de gouvernement et 5 parlements différents. Derrière ces factions militaires ou civiles, on retrouvait les différentes puissances impérialistes tentant de renforcer leur position. À la fin de la Première Guerre mondiale, la mobilisation des classes populaires allait dessiner les contours d'une véritable révolution sociale. Le prolétariat chinois, peu nombreux mais concentré, s'organisa rapidement en syndicats. Après le succès de la révolution ouvrière russe de 1917, un parti communiste fut fondé en 1921 sous la direction de Chen Duxiu. Mais l'espoir d'une révolution ouvrière allait être trahi par le stalinisme.